Didier Roy, Pierre-Yves Houdeillet, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous à l'occasion de la parution de votre livre aux éditions Nathan. C'est pas moi, c'est l'IA, qui est un livre qui cherche à faire comprendre, alors d'abord d'un public adolescent, mais en fait on le verra à un public plus large aussi, que ce soit les parents ou les grands-parents, ce que c'est que cette IA dont on ne cesse de parler de façon extrêmement bruyante, on va dire depuis au moins 2 ans, qui nous obsède tous et qui nous dessine un avenir dont on verra quelle couleur on peut lui accorder. Vous êtes tous les deux chercheurs à l'INRIA, vous êtes spécialisés l'un et l'autre justement dans l'intelligence artificielle, en essayant de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants et d'où vient cette intelligence artificielle. Alors justement, peut-être tout simplement pour commencer, quelques mots de définition, je pense que c'est important. De quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle?
Alors, en réalité, quand on parle, on entend dans les médias aujourd'hui le mot intelligence artificielle. La plupart du temps, ce qu'on veut vraiment dire, c'est intelligence artificielle générative, c'est-à-dire les logiciels comme ChatGPT, Gemini, Mistral, qui vont être capables de produire des textes, des images ou des vidéos qui ressemblent à des textes, des images ou des vidéos qui auraient pu être produites par les humains. Mais le terme intelligence artificielle, il faut aussi garder en tête qu'il a toute une histoire. C'est un terme qui est apparu au cours des années 1950, au siècle dernier, à peu près en même temps que l'invention des ordinateurs. Les personnes qui ont contribué à l'invention des ordinateurs, très vite se sont dit on pourrait utiliser ces machines pour modéliser les mécanismes du raisonnement, de l'apprentissage, de la logique qu'on observe chez les humains, et on pourrait essayer de les modéliser avec des machines. Et cette activité de modélisation qui a en fait à l'origine pour but d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe chez l'humain, on l'a appelé intelligence artificielle au départ. Alors après, on peut débattre ou pas, est-ce que c'était le bon terme ou pas. En tout cas, c'est comme ça que le mot est apparu. Et finalement, ça veut dire qu'au départ, ça désigne vraiment un domaine scientifique qui s'intéresse à essayer de fabriquer des machines qui simulent certaines capacités cognitive humaine pour mieux comprendre l'humain, mais aussi pour mettre au point des machines un petit peu plus sophistiquées. Et donc après, il y a eu différents mouvements. Il y a eu par exemple des gens qui ont essayé de faire des robots capables d'attraper des objets, de se déplacer dans des environnements compliqués. Donc là, on se concentre plutôt sur des formes d'intelligence qu'on appelle sensorielles et motrices. Il y a d'autres communautés qui sont intéressées à modéliser plutôt la logique, par exemple essayer de faire des ordinateurs qui jouent aux échecs, qui font des mathématiques. Et donc là, on essayait de modéliser la cognition sous la forme de systèmes qui manipulent des règles. Un peu plus tard, il y a des gens qui sont intéressés à modéliser les mécanismes de l'apprentissage. Et là, ils ont essayé de commencer à modéliser un petit peu le fonctionnement des neurones qu'on observe chez les animaux, chez les humains en particulier, mais chez tout un tas d'autres animaux. Et ils ont développé des méthodes permettant, par exemple, à une machine avec des réseaux de neurones artificiels d'apprendre à reconnaître des objets dans des images, apprendre pour un robot à savoir quelles commandes envoyer dans ses moteurs, étant donné les observations que lui donnait sa caméra ou son micro sur son environnement, et pour arriver à se déplacer le plus vite possible, par exemple. Et puis, ce sont ces mêmes techniques qui existent depuis assez longtemps, qui, dans les années récentes, ont été incorporées dans ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles de langage, comme ChatGPT. Et ici, en fait, il s'agissait, par exemple, de les utiliser pour apprendre à prédire la réponse à une question sous forme textuelle. Sauf que la différence, c'est que là, on a entraîné ces machines avec des bases de données gigantesques. Ces machines elles-mêmes, ces logiciels avaient une complexité très grande en termes de nombre de paramètres, et ce passage à l'échelle, c'est ça qui a amené très récemment à une sorte de révolution dans la capacité de ces machines que on peut connaître au quotidien sous la forme de ChatGPT, Gemini, etc.
Et à noter que ces capacités d'apprentissage des algorithmes, on savait le faire depuis les années 50. Ça a réellement explosé dans les années 2000, 2010 et 2020 avec l'IA générative, parce qu'en fait, il a fallu attendre que les ordinateurs soient suffisamment puissants et qu'on ait suffisamment de données numériques à faire ingurgiter aux machines. Et ça a été le cas quand les ordinateurs ont gagné. Aujourd'hui, ils ont des puissances phénoménales et que le monde est devenu numérique avec des quantités gigantesques de données. Et c'est là où ce qu'on appelle l'IA statistique, c'est-à-dire l'IA composée d'algorithmes qui apprennent, à exploser.
Oui, c'est ce que vous dites. Vous l'évoquez dans le livre quand vous refaites justement l'historique de ce parcours-là. C'est que à plusieurs reprises, il y a eu des espoirs déçus. C'est-à-dire qu'on a, comme vous le dites, conceptualisé finalement assez tôt le projet, à savoir faire en sorte que les machines, selon des instructions qu'on leur donne, rentrent dans une logique qui ressemble à une logique d'action ou d'apprentissage humain, mais qu'on était limité par souvent les capacités matérielles même des machines, et que le moment qu'on rencontre là depuis, on va dire, le début des années 2020, c'est justement ce moment où on a à la fois la quantité de données suffisantes pour l'apprentissage et en même temps la puissance informationnelle de calcul et de serveurs et de machines calculantes suffisantes pour pouvoir accomplir ce projet-là.
Alors ça, ça concerne surtout les algorithmes qui apprennent. Parce que l'autre partie originelle de l'IA, qui est ce qu'on appelle l'IA symbolique, donc qui applique des règles, qui suit des raisonnements, qui était capable de démontrer des théorèmes, jouer aux échecs, etc. Celle-ci, elle était déjà efficace. On la trouve même dans les systèmes experts. Et cette machine...
C'est ce qui a amené aux moteurs de recherche, en fait, qu'on utilise depuis longtemps. Aujourd'hui, on appelle ça des moteurs de recherche. On n'utilise plus du tout le terme d'intelligence artificielle. Mais en fait, au départ, quand on ne savait pas comment fabriquer des moteurs de recherche efficaces, bah justement, on disait que c'était de l'intelligence artificielle.
Et les limites, elles sont apparues à plusieurs reprises, ce qu'on appelle il y a eu deux hivers de l'IA. C'est parce qu'on s'est rendu compte que juste baser les choses sur le raisonnement, sur le raisonnement, sur la logique, ça ne suffisait pas à traiter toutes les situations. Donc il fallait, par exemple, si on veut apprendre à un enfant qui apprend à marcher, il n'apprend pas à partir de règles qu'on lui a écrites, des règles définies, il va apprendre par lui-même, par un système d'essai-erreur, la carotte et le bâton, ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Et ça, c'est une autre façon d'apprendre qui permet de traiter toute une autre catégorie de problèmes que l'IA symbolique, donc qui repose sur des règles qu'il faut écrire, et c'est parfois lourd à écrire, ne pouvait pas traiter.
C'est-à-dire qu'on passe d'un système dans lequel on est tenu, si on veut que les choses fonctionnent, à décrire quasiment tous les cas possibles,
oui.
Ce qui, effectivement, forcément devient limité à un moment. Quand on veut faire tourner un robot dans une pièce carrée, on y arrive, mais dès qu'on veut faire des tâches un peu plus complexes, ça devient difficile. Ah, effectivement, et ça sera, je pense, au sein de notre échange, le cœur de ce qu'on évoque, c'est-à-dire plutôt le versant d'IA générative, c'est-à-dire dans lequel on crée la possibilité pour l'IA, effectivement, d'anticiper des situations qui ne sont pas préconçues, qui, justement, alors je voudrais que vous intéressez, on s'arrête deux minutes sur ce que vous venez évoquer en passant, c'est-à-dire la question du renforcement, à savoir que l'idée, c'est qu'on a d'un côté, malgré tout, une forme de calcul, on a de l'autre côté de la donnée, qui, on va dire, l'ensemble, on va dire, potentiellement des données existantes du savoir qui se trouve pour partie sur Internet, et que c'est quand même l'interaction entre les deux qui va produire l'IA générative, mais il ne suffit pas de les faire se rencontrer. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions dans lesquelles cette rencontre est fructueuse, finalement.
Oui, tout à fait. Et en fait, peut-être c'est l'occasion d'expliquer comment est-ce qu'on fabrique un logiciel comme ChatGPT, par exemple. Donc, il y a deux mécanismes principaux qui, au final, ne sont pas si compliqués que ça. Il y a un premier mécanisme, c'est l'apprentissage avec des textes à trous ou des images à trous. Donc, au départ, par exemple, on collecte vraiment beaucoup, beaucoup de textes, des centaines de milliards de textes, par exemple. Et puis, pour chacun des textes qu'on a récupérés, on va volontairement enlever des mots à différents endroits. Et puis, on va donner ces textes avec ces trous à ces logiciels qui, au départ, à l'intérieur, il y a des paramètres qui vont déterminer ces calculs. Donc, ces paramètres, c'est des nombres qui règlent un petit peu. C'est comme des boutons dont on peut régler le calcul précis qu'ils vont faire. Et en fait, le résultat de ce calcul, ça va proposer la probabilité que pour mettre dans ce trou-là, par exemple, bah, peut-être c'est le mot livre, le mot bouteille. Ou, voilà. Et au début, les réponses vont être n'importe quoi. Mais l'avantage, c'est que comme le texte, au départ, on l'avait et que c'est nous qui avons enlevé le mot, bah, on sait quelle est la bonne réponse. Et donc, chaque fois qu'il va proposer une réponse, donc au départ, quasiment tout le temps fausse, eh bien, il va pouvoir mesurer son erreur. Et ce signal d'erreur, en fait, aujourd'hui, on connaît des méthodes, des algorithmes qui permettent de l'exploiter pour changer un tout petit peu tous les réglages, de manière à ce que la prochaine fois, si on montrait exactement le même exercice, eh bien, la probabilité de donner la bonne réponse va être un petit peu plus élevée. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le pré-entraînement. Et déjà, rien qu'en faisant ça, il se passe des choses surprenantes. Alors, pas quand il n'y a pas beaucoup de données ou les modèles comme on les appelle, sont petits. Alors, quand je dis petit, ça veut dire qu'il n'y a que quelques centaines de millions de textes et que quelques centaines de millions de paramètres. Et quand on fait ça, en fait, ils apprennent à peine à produire des phrases grammaticalement correctes. Mais au fur et à mesure qu'on augmente la taille des données et la taille des modèles et qu'on passe littéralement à des centaines de milliards de textes et des centaines de milliards de paramètres, donc là, on est vraiment dans des échelles gigantesques, eh bien, de manière très surprenante, arrive progressivement la formation de savoir-faire nouveau, par exemple la capacité à répondre à des questions, la capacité de résumer un texte, la capacité de faire une synthèse d'un certain nombre de textes, la capacité de faire des exercices de maths, la capacité d'expliquer une blague, par exemple. Et en fait, au départ, ces logiciels n'ont pas été entraînés spécifiquement sur ces tâches-là. Alors, il faut dire aujourd'hui que, d'un point de vue scientifique, on sait fabriquer ces machines, on connaît la recette, si vous voulez, mais on ne comprend pas exactement pourquoi elles fonctionnent aussi bien et comment ça se fait qu'à un moment donné, ces capacités apparaissent. Ça reste une question scientifique ouverte. Donc ça, c'est le pré-entraînement. Mais si on s'arrête là, la plupart du temps, il va y avoir de temps en temps des comportements de ces modèles qui ne sont pas forcément désirables parce que, tout simplement, en fait, quand on lui donne des centaines de milliards de textes qui ont été collectés sur Internet à n'importe quel endroit, il y en a beaucoup qui contiennent vraiment des bêtises, que ce soit des bêtises factuelles, des bêtises de raisonnement ou des choses choquantes. Donc, on a envie un petit peu de corriger ce que le modèle aura appris. Et donc, on va avoir une deuxième phase dans laquelle, en fait, on va du coup poser des questions et des problèmes relativement précis à ces logiciels. Et puis, on va leur demander de générer une réponse. Et là, on va demander à des humains, qu'on appelle des scoreurs, de mettre une note. Une note, par exemple, entre 0 et 20. Et chaque fois qu'ils auront produit une réponse dont la note est proche de 0, ben, en fait, on va utiliser un algorithme pour changer les réglages, pour diminuer la probabilité de faire ce genre de réponse. Et puis, si la note elle est proche de 20, on va renforcer la réponse. Et c'est ça qui va, par exemple, permettre d'avoir des logiciels qui vont éviter de dire des choses choquantes ou de révéler des informations qui peuvent être parfois problématiques. Par exemple, aujourd'hui, il y a des réglementations qui imposent que ces systèmes ne doivent pas, par exemple, donner des informations sur la manière dont on fabrique des armes chimiques, par exemple, et pour de très bonnes raisons. Et ben donc, on va utiliser ce type d'approche pour s'assurer au mieux, on ne peut pas le garantir, mais au mieux qu'ils ne vont pas révéler ce genre d'informations. Donc, première phase, pré-entraînement, texte à trous. Deuxième phase, renforcement, carotte et bâton, où on demande de faire des exercices, et puis on renforce les bonnes réponses et on punit les mauvaises.
Oui, et ces personnes qui font ce travail, on peut juste s'arrêter deux secondes dessus. Ces personnes, c'est ce qu'on appelle donc les scoreurs, hein, qui à longueur de journée visionnent ou alors étudient tout simplement des contenus qui peuvent être horribles. Hein, qui peuvent être horribles. Alors, souvent stupides, ça vient d'Internet, donc il y a vraiment le tout venant. Ces personnes, il faut remarquer qu'elles sont surtout situées dans des pays en développement. Elles sont payées quelques euros pour ces tâches qui sont vraiment très complexes à longueur de journée. Et sans ce travail d'alignement, sans ce travail de contrôle, d'amélioration, d'affinement du modèle de langage, on ne pourrait pas utiliser ces chatbots d'IA aujourd'hui parce qu'ils généreraient trop de choses incorrectes, non éthiques, etc. Donc ce travail humain est essentiel.
Oui, on y reviendra parce que ça fait pour partie de ce qu'on peut appeler la face noire un peu de l'IA, oui, avec d'autres questions d'ordre écologique ou économique. Oui. Et c'est là où on peut même imaginer une sorte de parallèle avec pour partie la révolution industrielle du 19e, c'est-à-dire on a affaire à des toutes petites mains, oui, payées à la tâche, à faire des tâches qui ne sont pas forcément pénibles physiquement, mais qui le sont très vraisemblablement mentalement assez redoutables et qui sont absolument indispensables à la façon dont la machine fonctionne ou au moins dont on veut qu'elle fonctionne.
Et pour reprendre l'idée des boutons dont parlait Pierre-Yves, des paramètres qu'on règle pour affiner le modèle pour qu'il fonctionne correctement, là, on parlait de milliards. Pour prendre une analogie, si on considère que ce sont des boutons d'une table de mixage, là, on parle, par exemple, pour GPT-4, qui est le modèle qui est derrière ChatGPT, on parle d'une table de mixage qui ferait 10 fois la taille de Paris, hein. Donc c'est pour dire la complexité du modèle en question, hein, le nombre de boutons qu'on peut régler. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des choses qui sont suffisamment fines pour pouvoir traiter beaucoup de bonnes questions, de les traiter correctement.
Hein. Mais du coup, par rapport à ce que vous disiez l'un et l'autre, ça veut dire que, eu égard à ces millions de paramètres, est-ce que quelqu'un ou est-ce qu'une entité a une vue d'ensemble de l'ensemble de ces paramètres ? qui permet de se dire effectivement, ou alors c'est des sous-ensembles, on va dire presque un peu comme le cerveau, c'est-à-dire que on considère qu'il y a des zones qui ont peu des différentes fonctions et qui interagissent entre elles, et que ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, qui est quand même très troublant, qui est que une fois le modèle mis en œuvre, il y a une partie des choses dont on a du mal à comprendre pourquoi la machine agit ainsi. Et alors, on viendra aussi ça à la fin de l'échange, parce que c'est probablement là aussi que se nouent des fantasmes sur la façon dont la machine s'autonomise. Mais avant d'en arriver là, justement, cette question du contrôle et de la vue d'ensemble, de votre point de vue, effectivement, les sociétés qui mettent en place ces outils-là ont cette vue d'ensemble-là, ou on est dans quelque chose de toute façon forcément très fractionné?
Non, ça reste des questions scientifiques totalement ouvertes. Tous les détails de ces logiciels sont évidemment connus, hein, on peut y accéder, on peut regarder tout à la loupe dans le moindre détail, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on comprend exactement, par exemple, quelles sont les représentations internes qui ont été acquises, quelles sont les régularités, les méthodes qu'elles ont acquises. Et ça n'empêche pas la capacité d'équipes d'ingénieurs de construire des systèmes extrêmement efficaces. C'est arrivé d'ailleurs de nombreuses fois, hein, dans l'histoire du développement des technologies, où on a développé des technologies qui étaient efficiente avant de comprendre véritablement comment elle fonctionnait. Par exemple, au début de l'aviation, on a réussi à mettre au point des avions qui volaient à peu près avant de bien comprendre toute la mécanique des fluides qui leur permettait véritablement de voler. C'est venu après. En fait, ça c'est une interaction d'ailleurs dans les deux sens entre l'approche scientifique et puis l'ingénierie qui construisent de manière empirique à fabriquer des machines et à expérimenter, à voir ce qui se passe. Donc non, il y a beaucoup de questions ouvertes très intéressantes, hein, d'ailleurs, qui se posent. D'ailleurs, il y a par exemple différents types d'approches qu'on peut utiliser. Il y a des laboratoires qui vont essayer, par exemple, d'utiliser un petit peu comme les techniques d'imagerie cérébrale qu'on utilise pour les humains. On va les utiliser pour analyser des patterns d'activation dans ces réseaux de neurones artificiels pour essayer de comment ils sont structurés. Et puis, on va utiliser tout simplement aussi des tests comportementaux qui, pour un certain nombre d'entre eux, proviennent de tests qui ont été développés au départ pour tester les capacités de raisonnement, d'interaction sociale, de perception visuelle chez les humains. Par exemple, les tests de QI, mais il y a aussi plein d'autres tests qu'on va véritablement utiliser pour tester ces logiciels dans tout un tas de domaines. D'ailleurs, on appelle ça des benchmarks, et c'est un petit peu des indicateurs qui permettent aussi de mesurer les progrès dans ces domaines-là.
Parce que finalement, c'est ce que vous dites, c'est ce qu'on comprend avec la logique du texte à trous, c'est que le logiciel lui-même, enfin peu importe comment on l'appelle, ou l'intelligence elle-même, elle est indifférente au caractère vrai ou faux de sa réponse. C'est-à-dire que pour elle, c'est pas une question, elle peut vous donner n'importe quelle réponse. Alors, vous en donnez des exemples dans le livre, les aberrations, les œufs de vache, c'est ce type de choses. Mais qu'importe si c'est moins vrai maintenant, il y aura toujours des exemples où on peut montrer qu'elle se trompe, entre guillemets. Mais en fait, de son point de vue à elle, elle ne se trompe pas. Elle donne une réponse par rapport à ce qu'on lui donne comme question.
Alors, peut-être, vous venez de dire de son point de vue à elle, c'est intéressant. En fait, la machine n'a pas de point de vue qui à elle, en fait, ce sont principalement des machines qui sont capables de simuler le comportement de personnes ou d'objets dans des situations particulières, et donc de simuler le point de vue que pourrait avoir une personne dans tel ou tel contexte. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il faut le garder en tête aussi, parce que, par exemple, quand on se pose la question de la capacité d'une machine à résoudre tel type de problème de maths ou de rédiger tel type de texte avec de la qualité, en fait, c'est pas une question qu'on peut vraiment se poser dans l'absolu. C'est une question qui fait plus de sens de se poser quand on lui donne le rôle, par exemple, d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Par exemple, vous prenez un problème de mathématiques, eh bien, si vous dites à la machine jouer le rôle d'un étudiant au collège ou au lycée, ou alors jouer le rôle, par exemple, d'un peintre, ou jouer le rôle d'un astrophysicien, il ne va pas du tout répondre au problème de mathématiques de la même manière, parce qu'en fait, il va se mettre, il va simuler ce que ferait un astrophysicien ou un collégien. Donc, dans un cas, il va probablement, peut-être si le problème de maths est un peu dur, produire une réponse qui est fausse, et puis dans l'autre cas, il va produire une réponse qui est extrêmement précise et détaillée. Par ailleurs, effectivement, vous avez totalement raison, ce ne sont pas des machines qui sont entraînées et construites pour faire la différence entre le vrai et le faux, mais plutôt faire la différence entre le probable et l'improbable, le fréquent et l'infréquent. Elles sont tout simplement entraînées à, d'un côté, produire les réponses qui sont les plus probables, et puis aussi celles qui ont le plus de chances de satisfaire l'utilisateur, d'avoir des bonnes notes de l'utilisateur, parce qu'il y a, tout à l'heure, on parlait de la carotte et du bâton, mais satisfaire l'utilisateur, ce n'est pas tout le temps lui dire la chose la plus vraie.
Alors là, c'est extrêmement important parce que les deux choses que vous venez d'évoquer mettent en œuvre ce qu'on connaît maintenant un peu mieux sous la question des biais. C'est-à-dire on aboutit à des réponses qui, au-delà des aberrations, ont parfois ce qu'on appelle des biais. Alors vous donnez des exemples, effectivement. Si on demande si lui est docteur, alors qu'est-ce qu'elle fait elle, et bien, il y a des chances pour qu'elle soit infirmière ou ce type de choses. Donc ces biais-là, finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'ils dépendent de la personne qui pose la question, de l'idée que la machine est programmée avec l'idée de satisfaire l'utilisateur, donc avec ce que ça peut induire, et puis, de toute façon, elle est quand même conçue, évidemment, et alimentée et programmée par des êtres humains qui, comme tous les êtres humains, ont des biais dans la façon dont ils ont de concevoir la société, le savoir, les connaissances.
Et les données, la masse de données, les quantités gigantesques de données qui ont été utilisées pour nourrir la machine. Qui ces données dépendent du contexte, dépendent de la culture du pays qui a lancé l'IA. Par exemple, ChatGPT, on le voit à plus d'un titre que ça vient d'un monde anglo-saxon, américain. On le voit dans les réponses qui sont formulées. Et ça entraîne justement une différence selon là où a été entraîné le modèle. Selon la culture qu'il a utilisée, il y a un test qu'on cite régulièrement à propos des couleurs. Si on interroge par exemple un logiciel d'IA générative et qu'on lui dit complète la phrase ma couleur préférée est le, eh bien on va voir que statistiquement, par exemple ChatGPT va répondre le plus souvent le bleu. Il va répondre ensuite d'autres couleurs, mais qui vont correspondre aux statistiques des couleurs qui sont aimées sur Internet. Mais dans cette culture-là, qui est une culture occidentale, dans d'autres cultures, on va pas forcément avoir la même réponse, les mêmes probabilités de réponse, parce que les couleurs sont pas appréciées de la même façon. Ça dépend des cultures.
Donc, ce qu'on entend, et ce qui est très important, parce que rappelons que le livre a pour partie un public spontané, qui est un public adolescent, mais vous adressez à tout le monde. Et ce que vous dites finalement, ce qui est très important, c'est que ce qui importe, c'est de savoir ce qu'on lui demande et le sens qu'on accorde à la demande qu'on lui fait. C'est-à-dire que c'est là peut-être que par rapport à des gens qui ont vu l'émergence d'Internet dans les années 90-2000 et qui avaient l'idée un peu quid, pour ceux qui ont la référence, c'est de se dire en fait on a une information ou une question, on veut une réponse précise, factuelle, logique presque un peu Wikipédia. Là, c'est très différent, c'est-à-dire que, et vous passez beaucoup de temps dans le livre, et c'est très important, expliquer que s'il y a une éducation à faire auprès aussi bien des adultes que des enfants, c'est comment poser les questions à ces systèmes d'intelligence artificielle générative. Et que, en fait, si on veut sortir des fantasmes et des choses un peu délirantes par rapport à ces questions-là, c'est éduquons-nous nous-mêmes et sachons quelles questions lui poser.
Oui, tout à fait, c'est absolument essentiel. Alors, d'abord, première remarque, savoir poser des questions, ça va bien au-delà de l'intelligence artificielle. C'est peut-être l'un des savoir-faire les plus importants qu'on doit acquérir au cours de l'éducation, en particulier dans un monde qui change. Dans un monde qui change, bah aujourd'hui, on a des grands enjeux. Le climat change, la situation géostratégique du monde change. Il y a des arrivées de technologies qui révolutionnent le monde, comme l'IA, qui typiquement amène à devoir en permanence apprendre des choses nouvelles et puis aussi questionner les informations qui nous arrivent d'ici et là. Donc poser les bonnes questions, arriver à les formuler bien, c'est vraiment essentiel. Et en particulier, comme on vient de le voir, dans un contexte où l'intelligence artificielle, c'est particulièrement une technologie de transmission culturelle. Donc, par rapport à ce qu'on disait Didier, ça veut dire que un système d'IA développé par les Américains sur des corpus de textes choisis par les Américains va véhiculer des croyances, des mythes, des préférences, des valeurs, des biais qui ne seront pas les mêmes que celles des Chinois ou des Russes et qui feront que, par exemple, si on demande à ce système-là de nous parler du conflit au Moyen-Orient ou de la guerre en Ukraine, la perspective qui sera donnée sera très différente en fonction du logiciel qu'on utilisera. Mais plus précisément, même pour chacun des logiciels, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que ce sont des machines à jouer des rôles Et chaque fois qu'on interagit avec, il faut faire comme finalement un metteur en scène au théâtre ou un écrivain de pièces de théâtre qui définit les rôles, leurs fonctions, et avant de faire parler les personnages finalement. Eh bien, chaque fois qu'on pose une question, il faut d'abord dire qui pose la question, pourquoi on pose la question, pourquoi en un seul mot, et pourquoi, dans quel objectif on pose la question, qu'est-ce qu'on cherche comme type d'information. Et cette contextualisation va permettre finalement une utilisation beaucoup plus raisonnable, comprise, raisonnée de ce type d'outil.
Et d'ailleurs, on prend un exemple dans le bouquin concernant la physique quantique. Donc, on cite un exemple où on questionne, par exemple, ChatGPT, on lui demande qu'est-ce que la physique quantique. Ça, c'est... Et puis donc là, ChatGPT va répondre un certain nombre d'éléments généraux. Et dans un deuxième cas, on lui dit, voilà, imagine que tu t'adresses à des enfants de 8 ans, etc. Et là, la réponse n'est pas du tout la même. Elle est adaptée à un public de cet âge-là, etc. Donc, on obtient des choses différentes. Et à noter aussi, en passant, que autant de fois on va lui poser la question, autant de fois on va avoir des formulations différentes. Et si on change de logiciel d'IA générative, on va aussi encore avoir des choses différentes.
Alors, ce qui suppose d'ailleurs quelque chose que vous évoquez dans le livre, mais qui est forcément un peu une boîte noire, c'est-à-dire que la question, c'est celle du savoir de référence. C'est-à-dire qu'on a affaire à des IA génératives de toutes sortes, parce qu'on en connaît tous 3, 4, 5, mais en fait, vous le dites bien, il y en a plusieurs dizaines de milliers qui sont disponibles. Vous évoquez l'usage plus ou moins détourné qui peut être fait justement pour faire des devoirs, tout en disant à chaque fois, mais ce qui est important, c'est d'aller boucler pour aller se dire, il faut aller chercher l'instance de référence qui dira, mais non, la guerre 39-45, elle finit à tel moment ou telle autre information. Mais la question, c'est, ça va être rapidement, qui fait référence dans un monde dans lequel l'IA prend de plus en plus de place aussi.
Oui, mais oui, et c'est une question qu'on évoque souvent, et la question revient souvent, c'est dire comment faire après pour trier le vrai du faux, où là, ça devient compliqué, et il faut avoir des sites ou des journaux de référence, il faut avoir un journalisme qui va recouper les sources, qui va vérifier, etc. Mais il y a déjà une première vérification qu'on peut faire, déjà par soi-même, c'est quand l'IA générative produit une réponse, c'est déjà se poser la question, par défaut, s'en méfier. Par défaut, c'est ce qu'on dit souvent, par défaut, considérer que ça peut être faux, qu'il y a de grandes chances que ce soit faux. Donc, pour s'inciter à les vérifier, faire preuve d'esprit critique, de se demander s'il n'y a pas des biais, comme le biais, par exemple, de la vérité illusoire qui fait que plus on voit quelque chose, plus on pense que c'est vrai. Ça, c'est un biais du cerveau, on n'y peut rien. Et donc, ça veut dire que quelque chose de complètement faux, mais qui est très répandu, par exemple, sur les réseaux sociaux, va acquérir une valeur de vérité qu'il ne mérite pas. Et à l'inverse, des choses beaucoup moins diffusées vont être considérées comme étant fausses. Donc là, il faut s'en méfier. Et quand on sait que son cerveau fonctionne comme ça, eh bien, on va se méfier de la réponse fournie par l'IA générative, qu'elle s'en fiche de raconter des trucs vrais ou faux. Elle n'a pas cette notion. Et il faut recouper les sources, il faut aller voir des sites de référence, des journaux de référence, dont on sait que la production de l'information est de qualité, etc. Donc il faut toujours vérifier ce qu'on obtient par l'IA générative.
Et peut-être pour compléter, à côté de la question de savoir quelles sont les informations de référence, il y a une autre question, c'est quelles sont les valeurs de référence. Je disais tout à l'heure que il y a cette technique de la carotte et du bâton qui permet de s'assurer, par exemple, que les logiciels vont pas dire des choses choquantes et plutôt dire des choses qui sont alignées avec ce que souhaite l'utilisateur. En réalité, ça s'est associé à un besoin, à une pensée plus générale qui est de savoir. Donc, on sait maintenant que ces machines ont une influence majeure potentiellement sur la culture, sur les valeurs, sur les informations, sur la démocratie. Et donc, on veut vraiment les encadrer et inscrire à l'intérieur des valeurs précises, des objectifs précis. Mais du coup, ça nous amène à nous poser une question un petit peu unique, finalement, dans l'histoire de l'humanité, parce que, comme ce sont des machines, il va falloir qu'on définisse véritablement, précisément, quelles sont ces valeurs. Et ça pose tout un tas de questions. D'abord, qui va décider ? Pourquoi ? Dans quel contexte ? Alors, aujourd'hui, comment ça fonctionne ? Qui décide ? Ce sont tout simplement des équipes, plutôt d'ingénieurs, malheureusement, dans des grandes entreprises, plutôt anglo-saxonnes, Alors parfois avec de bonnes intentions. Hein. Par exemple, vous avez une entreprise comme Anthropic qui fait un logiciel qui s'appelle Claude et qui ont une approche qui s'appelle l'IA constitutionnelle où ils mettent au point une sorte de constitution, hein, vraiment des règles formelles qui définissent ce qui est acceptable et pas acceptable. Et ils le font avec une intention relativement louable. Sauf que c'est en interne que c'est défini, c'est avec une perspective qui est californienne, qui n'est pas du tout forcément la même que celle que en France on voudrait adopter. Mais du coup, la question c'est si on voulait le faire en France, bah, finalement, qui devrait le faire, de quelle manière et quelles seraient précisément ces valeurs qu'on souhaiterait. Donc ça pose des questions en fait qui sont intéressantes pour la société plus généralement parce que ça nous pousse à expliciter finalement quelle société on veut.
Oui, après, c'est un peu abyssal aussi, parce qu'on peut se dire que ces questions-là arrivent précisément où on a le sentiment que les rapports de valeur n'ont jamais été autant polarisés, aussi bien à l'intérieur des sociétés qu'à l'échelle du monde. Ce qui nous paraissait comme un universalisme hérité de l'après-deuxième guerre mondiale n'en finit plus de s'effriter. Et effectivement, et paradoxalement, enfin pas paradoxalement, parce que c'est lié, et la puissance de ces sociétés-là, et on le voit bien évidemment encore plus ces jours-ci, est devenue telle qu'elle finalement, elle pèse autant que certains États, voire plus. Donc les questions que vous soulevez et que vous posez sont extrêmement légitimes, mais on n'a pas le sentiment que les conditions pour y répondre sereinement soient complètement réalisées actuellement.
Ah, ouais, vas-y. Non, vous avez totalement raison. Néanmoins, il y a une prise de conscience de ces enjeux. Par exemple, la question de la gouvernance des systèmes d'IA à l'échelle mondiale est une vraie question qui se discute à un niveau politique et géostratégique entre les gouvernements. Il se trouve que dans quelques temps, il va y avoir le sommet de l'IA en France, qui en particulier consiste à se faire rencontrer des organisations internationales, des gouvernements, des entreprises, pour essayer de se mettre autour d'une table et se mettre d'accord sur des règles qui concernent le droit, mais aussi des règles qui sont associées justement à définir ces valeurs. Alors il y a beaucoup de chemin à parcourir, mais c'est une vraie question dont les gens ont conscience et commencent à y travailler.
Et finalement, je me demande, moi, si ce n'est pas une chance, en fait. Alors, ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais cette dérive qu'on constate entre la séparation difficile, finalement, entre le vrai et le faux, ne date pas de l'IA. Il y avait déjà des tendances comme ça. Et on arrive à un tel point avec l'IA de masquage d'un certain nombre de choses vraies au bénéfice, de, par exemple, de complotisme, de choses comme ça, qu'on arrive à se poser la vraie question. C'est en disant comment bien séparer le vrai du faux, la réalité de ce qui est inventé, etc. C'était des questions, finalement, qu'on aurait pu se poser avant, mais c'était moins prégnant. Aujourd'hui, ça devient essentiel. Donc, d'avoir un journalisme de référence, d'avoir des références, des valeurs, des règles qui encadrent tout ça pour éviter les dérives. Ça devient essentiel.
Parce que finalement, par rapport à la situation que vous décrivez, il y a quand même deux choses distinctes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la façon dont les modèles avancent et progressent, qui fait qu'on peut considérer que des fois on a des réponses qui ne sont pas opportunes, mais que c'est dans la logique même d'apprentissage de l'IA qu'on a ça. Et puis, il y a un autre versant que vous étudiez aussi dans le livre, qui va être ce qu'on va appeler de façon très générique les deepfakes, c'est-à-dire l'idée que c'est l'intention, alors des fois purement divertissante et parfois malveillante, de créer quelque chose qui n'existe pas mais qui a la couleur de la vraisemblance, de façon à faire passer, comme on ne dit plus, les vessies pour des lanternes. Et ça, pour le coup, c'est un autre versant qui est l'idée de quelque chose qui irait délibérément agir contre un univers qui serait, si ce n'est celui du réel, mais plutôt celui du vrai.
Une petite précision en direction des jeunes par rapport à ce que vous dites. Quelque chose d'amusant, de distrayant, peut être reçu par la personne concernée comme quelque chose de malveillant. C'est-à-dire qu'en voulant s'amuser, on peut blesser quelqu'un. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi. Les jeunes qui s'amusent avec ces deepfakes pour tout simplement pour jouer peuvent blesser des gens. C'est aussi l'occasion de les sensibiliser aussi à ce genre de choses.
Et en effet, ça a aussi des usages malheureusement massifs pour des enjeux démocratiques. Par exemple, on l'a vu très récemment dans des contextes d'élections de pays variés, des logiciels qui simulaient massivement dans les réseaux sociaux des personnes, alors que ce n'était pas des personnes, c'était des logiciels, et qui ont été déployés par des organisations parfois grandes, parfois toutes petites, qui voulaient défendre un point de vue particulier pour influencer l'élection dans telle ou telle direction. Et on sait véritablement que ça a un impact majeur. Par exemple, dans le cadre de la guerre en Ukraine, on a vu il y a quelque temps une vidéo du président ukrainien qui demandait à ses troupes de se rendre, et qui était une vidéo qui ressemblait en tout point à une vidéo réelle, impossible pour la plupart des gens de s'en apercevoir, mais qui était une vidéo complètement fake. Du coup, c'était vraiment une deepfake et qui était organisée par des organisations russes ou pro-russes, évidemment, pour déstabiliser le conflit. Donc, on voit que c'est utilisé par certaines organisations vraiment volontairement à des fins de manipulation de l'opinion.
C'est d'autant plus problématique que pour ça, l'IA générative est très convaincante. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent que des arguments avancés par l'IA générative, elle s'exprime très bien, elle a beaucoup de culot. Vous voyez, je fais plein d'anthropomorphisme là, sans le vouloir. La pauvre, elle veut rien. La pauvre. Bref, donc elle est tellement convaincante qu'elle peut répondre des fausses idées avec une très grande efficacité. Et c'est vrai aussi, par exemple, il y a des études qui ont été faites quand on fait générer des poèmes par une IA générative et qu'on demande à des humains de détecter parmi différents poèmes ceux qui ont été faits par l'IA et ceux qui ont été faits par les humains, eh bien, ils trouvent que les poèmes faits par l'IA sont plus réalistes, ils les trouvent plus humains que les autres. Parce qu'ils s'attendent à des choses tellement bien écrites, etc., qu'ils se disent qu'il n'y a pas de défaut là-dedans, mais c'est sans doute les humains qui ont fait ça. Et dans le même ordre d'idée, des visages générés par l'IA, les visages, les gens les considèrent comme étant plus humains que de réels visages. C'est-à-dire, il y a une efficacité pour convaincre les gens qui est aussi à prendre en compte. C'est très efficace. Il faut d'autant plus être prudent. S'en méfier.
C'est ce qu'on retrouve, mais c'est pas l'objet là, mais la vieille question esthétique du rapport entre le vrai et le vraisemblable.
Oui, mais c'est ça.
Alors, juste pour revenir un peu à des choses, si ce n'est plus positives, mais qui sont quand même au cœur de votre livre, c'est la question de la curiosité. Puisque bon, c'est un sujet que vous travaillez l'un et l'autre au sein d'Enria et qui est vraiment très important, parce que ce que vous dites, si on prend les choses justement dans un versant plus intéressant, finalement, l'horizon des chercheurs qui font progresser ces machines-là, c'est de leur faire développer une forme de curiosité. Mais pour ça, il faut comprendre comment fonctionne la curiosité humaine. Et en retour, ça suppose que les gens qui s'en servent doivent aussi comprendre que c'est en étant curieux qu'ils tireront le meilleur de l'IA.
Oui, tout à fait. Alors, peut-être pour réexpliquer un petit peu le contexte, effectivement, dans notre équipe de recherche, on s'intéresse à essayer de mieux comprendre les mécanismes de la curiosité et son rôle dans les apprentissages chez l'humain, et de le modéliser avec des outils d'intelligence artificielle et de le transposer dans des machines. Les outils d'intelligence artificielle qu'on utilise pour modéliser ces mécanismes ne sont pas du tout au départ les mêmes que ceux de l'intelligence artificielle générative. Donc, comme on l'a dit, il y a différentes formes d'IA. Mais néanmoins, ces outils qu'on utilise, ils sont aussi très intéressants, performants, utiles, et ils nous ont amenés à faire des gros progrès ces 20 dernières années pour comprendre les mécanismes de la curiosité chez l'humain. Et en particulier, ils ont permis de mettre le doigt sur quelque chose de très important chez l'humain pour la curiosité, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Donc la capacité de notre cerveau à s'apercevoir quand il sait, quand il ne sait pas, quand il comprend et quand il ne comprend pas. Et c'est très important parce que, en réalité, notre cerveau, il se retrouve dans un état de curiosité et de vouloir explorer et d'apprendre quand il a conscience qu'il y a quelque chose qu'il ne sait pas, qu'il ne maîtrise pas, et plus particulièrement quand il essaye un peu d'explorer et il s'aperçoit qu'il fait des progrès, qu'il trouve des informations. Donc en fait, c'est ce qui est le plus ce qui nous fait plaisir, en fait, c'est quand il y a quelque chose qu'on maîtrise pas et puis on essaye d'explorer et finalement on fait du progrès, on découvre progressivement des choses nouvelles. Ça nécessite que notre cerveau il soit capable d'abord au départ de s'apercevoir qu'on savait pas et qu'on comprenait pas, et aussi de s'apercevoir qu'on progresse. Et donc, nous, ça fait tout un tas d'années qu'on travaille sur développer des machines qui ont des formes de métacognition et qu'on a testé, par exemple, sur des robots qui explorent leur corps, qui apprennent à se mouvoir, qui apprennent à attraper des objets. Et c'était des systèmes qui n'étaient pas du tout comme ceux de l'IA générative. Il se trouve qu'aujourd'hui, les systèmes d'IA générative dont on vient de parler juste avant, ils ont des capacités extraordinaires de prédiction des textes et des images, comme on le disait. Par contre, à ce stade, il leur manque encore totalement des capacités métacognitives et encore plus des capacités de curiosité. Donc ça, ça fait partie d'un des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui dans mon équipe pour essayer de rendre ces systèmes d'IA générative plus métacognitifs. Et c'est intéressant à plusieurs titres. D'abord, ça pourrait leur permettre d'identifier les incertitudes dans leurs propres connaissances qu'elles pourraient potentiellement communiquer aux humains, c'est-à-dire qu'on leur pose une question plutôt que de répondre de donner une réponse comme si c'était sûr et que c'était ils en étaient sûrs et que c'était vrai, ils pourraient plus facilement identifier quand est-ce qu'ils sont pas trop sûrs et nous le dire. Et puis la deuxième chose, c'est que ils sont capables d'accéder à des sources d'informations ou qui peuvent, par exemple, si c'est un robot qui peut faire des expérimentations, quand ils sont pas sûrs, ils peuvent faire une expérimentation, aller faire une action qui leur permet de collecter une information nouvelle pour vérifier par elles-mêmes avant de nous répondre si finalement la réponse était bonne ou pas. Et puis évidemment, pour en revenir aux humains, on s'est aperçu aussi que la curiosité, c'est quelque chose de fondamental dans le développement et les apprentissages chez les enfants. C'est quelque chose à la fois d'intuitif, d'instinctif, mais qui se développe. C'est-à-dire que ça n'arrive pas comme ça tout d'un coup. Et par exemple, pour la métacognition, ça, c'est quelque chose qui se développe au cours de l'adolescence et qui en fait s'entraîne, qui se muscle, par exemple, en s'entraînant à poser des questions curieuses sur tel ou tel sujet. Et il se trouve que récemment, on s'est intéressé à utiliser des scénarios pédagogiques dans lesquels on faisait interagir des enfants à l'école primaire avec un petit agent conversationnel qui donnait des indices progressivement aux enfants pour les amener à réaliser ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils ne comprenaient pas, et à poser des questions de plus en plus sophistiquées. Et donc là, on utilise l'IA générative comme un outil pédagogique qui va les amener à muscler la curiosité.
Je me suis demandé si vous avez une question en plus, mais non. Alors, du coup, ça, c'est ce que vous entendez aussi par là, c'est que dans le cas de l'IA générative, la métacognition, enfin son absence en l'occurrence, elle vient manifester aussi son autre limite, qui est celle de, enfin, ce que nous on appellerait entre humains l'interaction sociale, et qui est un élément décisif de ce qu'on appelle nous aussi l'intelligence, c'est-à-dire que on sait, alors, parce qu'on n'a pas évoqué, mais la définition de l'intelligence est elle-même problématique au sens où elle recouvre des choses extrêmement variées, mais parmi les intelligences, une intelligence qu'on va dire sociale, qui fait que la façon dont se construit un rapport, de se construire un discours et de se construire un dialogue, elle se noue dans les effets d'interaction qu'on a, soit avec des individus, soit avec des groupes. Et que ce qui manque spécifiquement aux IA génératives, c'est cet élément-là. C'est-à-dire qu'elle va répondre à une sollicitation qui est le prompt qu'on lui fait, mais il n'y a pas d'autre effet retour que celui qu'on lui aura écrit.
Alors, ce qui manque, après, c'est une question de point de vue. Est-ce qu'on veut que ça devienne comme ça ou pas ? Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, une des meilleures preuves, c'est que la façon dont répond un chatbot d'IA, c'est que il fait, là encore, il va écrire une phrase à trous quand il fait sa réponse. Par exemple, on lui pose une question, je ne sais pas quelle est la couleur de la voiture, de machin, de truc, quelque chose qui est très connu, et il va répondre là. Mais après là, qu'est-ce qui convient le mieux probablement, puisqu'il y avait couleur dans la réponse principale. Je vous dis ça très schématiquement. Il va rajouter couleur. Donc on voit bien qu'à chaque trou supplémentaire qu'il va chercher à compléter pour avoir une phrase de réponse, il fait appel à des probabilités, etc. Donc il n'a pas une vision complètement d'ensemble de la réponse. On est toujours dans des statistiques et dans des calculs de probabilités. Donc là, après, il y a des choses qui sont... Il y a deux aspects majeurs. C'est la compréhension des émotions, qui est quand même un aspect très humain, comprendre l'intuition, etc. Et puis un autre élément qui est fondamental, c'est le fait que l'IA n'a pas de corps. Et pour interagir avec le monde, pour comprendre le monde, il faut un corps. Et par exemple, une IA va être capable de comprendre ce qu'est un mur, mais tant qu'elle ne sera jamais appuyée contre un mur, etc., elle ne saura pas exactement la sensation qui correspond à ce mur-là. Elle peut en parler, parce qu'elle va puiser dans ses bases de données, etc., de tout ce qu'elle a appris. Elle est capable de parler du mur, mais fondamentalement, elle ne sait pas ce que c'est. Elle n'en a pas fait l'expérience. Ça, c'est un élément intéressant.
Or, dans cette expérience, se loge aussi un savoir.
Ah, bien sûr.
Et là, Un autre point que nous devons aborder, on a évoqué tout à l'heure la question des scoreurs, c'est-à-dire ces personnes payées une misère qui justement permettent, participent au renforcement et à la compétence, si l'on veut, des modèles d'IA générative. Il y a un autre versant extrêmement négatif et qui est maintenant très bien documenté de l'IA, qui est le versant écologique, c'est-à-dire à la fois un mélange où se noue la consommation électrique, l'exploitation des terres rares et l'utilisation de l'eau, quand vous évoquez des chiffres dans le livre, mais qui finissent par atteindre un volume extrêmement fort de ce qui est disponible. Et sachant que dans l'évolution relativement exponentielle qu'on a actuellement, des modèles en tout cas actuels d'IA, on peut penser qu'il va y avoir un problème de limite physique à cette utilisation.
Bah regardez, juste deux petits exemples. Un exemple de générer une image. Générer une image, ça coûte en électricité, enfin en énergie, l'équivalent de la recharge complète d'un smartphone. Avoir un échange de 20 à 50, 20 à 30 questions avec ChatGPT, ça consomme environ un demi-litre d'eau. Alors dit comme ça, ça peut paraître peu, mais multiplié, je crois que ChatGPT, on doit être autour de 200 millions d'utilisateurs aujourd'hui, ça devient vite gigantesque. Extraire le lithium qui est nécessaire pour les composants des grands centres de calcul et grands centres de données qui font marcher tout ça, par exemple, il y a une mine au Chili, qui est la plus grande mine au monde d'extraction du lithium, elle consomme 400 000 litres d'eau par heure, hein. Et ce qui fait que les populations locales commencent à manquer d'eau. On commence à avoir plein de problèmes générés par l'IA. Mais attention, il ne faut pas diaboliser l'IA qui, elle aussi, traite un certain nombre de questions environnementales avec succès. Par exemple, prévoir des cataclysmes, gérer des productions d'électricité, gérer des productions d'eau. Donc on a les deux côtés, d'une face sombre et une face plus claire. Mais la question de l'IA et de l'environnement est une question majeure. Et on cherche aussi aujourd'hui à avoir des modèles de langage, des logiciels d'IA générative beaucoup plus frugaux, hein, beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus économes. Et l'avenir, ça va être ça. Sinon, ça va être un frein considérable au développement de l'IA générative.
Et peut-être aussi pour compléter et plus sur le côté positif, c'est vrai que là, on parlait beaucoup d'IA générative et qui est effectivement extrêmement consommatrice en énergie. Mais comme on le disait avant, il y a aussi tout un tas d'autres formes d'IA qui existent depuis longtemps et qui sont extrêmement cruciales. Par exemple, quand on essaye de prédire la météo, le climat, quand on essaye de modéliser, par exemple, la propagation des maladies, quand on essaye de mettre au point des matériaux nouveaux, ce sont à la fois des algorithmes et des méthodes d'IA qui ont un très grand intérêt sociétal et qui ne sont pas du tout toujours consommatrices d'énergie. Il y en a certaines qui sont même relativement frugales. En fait, ce qui est aussi intéressant, on parlait peut-être aussi du fait que on peut utiliser par exemple des systèmes d'IA pour mettre au point des nouveaux matériaux, des matériaux plus durables, ce qui est un côté plutôt positif environnemental. Ça, c'est relié au fait qu'il y a aussi une révolution qui est apportée par l'IA qui est extrêmement intéressante et positive pour les sciences. Très récemment, il y a eu deux prix Nobel, le prix Nobel de physique et le prix Nobel de chimie, qui ont été décernés à des équipes de chercheurs en intelligence artificielle. Par exemple, le prix Nobel de chimie était décerné pour une avancée permise par l'intelligence artificielle qui permet de prédire les propriétés de certains types de protéines. Et ça, c'est extrêmement important parce que les protéines, c'est extrêmement important pour comprendre le vivant. C'est aussi très important pour mettre au point, par exemple, des médicaments. Et par le passé, on avait beaucoup de mal à prédire les propriétés à partir d'une formule chimique. Il fallait donc faire des expériences extrêmement coûteuses. La recherche avançait extrêmement lentement. Et les avancées de l'IA permettent de faire ça de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace qu'avant. Ça ouvre des champs considérables nouveaux. Mais ce n'est pas simplement dans le domaine de la chimie. Par exemple, dans le domaine des mathématiques, vous avez les plus grands chercheurs du monde qui utilisent de plus en plus des logiciels d'intelligence artificielle pour les aider, par exemple, quand ils veulent faire une preuve d'un théorème extrêmement compliqué, eh bien, ils vont les utiliser comme des assistants pour peut-être parfois formaliser des intuitions qu'ils vont leur donner, ou alors au contraire pour brainstormer sur des stratégies pour résoudre un problème. C'est pareil en physique, en astrophysique, c'est de plus en plus utilisé pour essayer d'interpréter les données qui nous permettent de comprendre la structure de l'univers. Donc, c'est en train de véritablement révolutionner complètement un peu toutes les sciences. D'ailleurs, pas que les sciences entre guillemets dures, mais aussi les sciences humaines, les sciences sociales, par exemple, dans lesquelles on a beaucoup, beaucoup de données humaines, de données verbales, qui sont extrêmement difficiles à analyser à la main. C'est pareil, là, on a des outils qui nous permettent d'analyser des quantités de données beaucoup plus grandes, d'y voir plus clair, de voir des régularités où avant on voyait une forêt de données incompréhensibles. Donc là, il y a vraiment des avancées fondamentales sur la connaissance et sur les applications aussi qui y sont associées, qui sont en train de se passer.
Donc ce que vous dites finalement, c'est qu'on a un certain nombre d'IA formés et spécialisés dans des domaines qui permettent d'avoir des avancées, des savoirs extrêmement précis, et qu'on peut considérer que jusqu'à un certain point, on a aussi un usage un peu gadget de certaines IA qui, elles, sont extrêmement consommatrices pour le coup.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on a aujourd'hui des technologies qui, si elles sont bien utilisées, permettent de faire des choses vraiment extraordinaires, mais pour lesquelles aussi elles sont tellement faciles d'accès que parfois il y a des usages vraiment exagérés où on va leur demander de faire 3 plus 3 ou on va leur demander des questions pour lesquelles on pourrait avoir l'information très facilement par d'autres moyens et qui vont du coup consommer une énergie qui n'est absolument pas justifiée.
Ça rejoint cette idée que à la fin des années 2000, quelqu'un évoquait disant on pensait qu'avec Internet, on aurait la bibliothèque universelle et à la fin, on a du porno et des chatons. Quoi. C'est un peu le risque toujours dans ce type d'avancée.
Oui, mais avec l'IA, on va encore un peu plus loin puisqu'on a, on a des 1300 sites, mais ça avance tout le temps, hein, ça augmente tout le temps, 1300 sites d'information sur Internet qui sont complètement gérés et nourris par l'IA. Donc on commence non seulement à avoir des trucs qui servent pas forcément à grand chose, mais là qui sont faux, parce qu'avec des informations qui sont souvent fantaisistes, hein, qui sont créées comme ça. Europol, alors bon, c'est une prédiction. Europol imagine que en 2026, tenez-vous bien, 90% du contenu d'Internet pourrait être réalisé, créé par de l'intelligence artificielle. Bon, c'est une projection qui vaut ce qu'elle vaut, mais on va vers un certain nombre de choses qui seront pas vérifiables, pas valables, qui seront des informations sujettes à caution. Et ça, il faut s'y préparer. Il faut donc, comme on disait, recouper des sources, etc. Mais cette présence du faux qui est nourrie par l'intelligence artificielle, il faut s'y habituer, s'y préparer. À côté de ça, il y a des usages formidables, comme le cité Pierre-Yves. Il y a notamment dans le domaine de la santé, c'est absolument incroyable tout ce qui se passe. Il y a des avancées majeures. Il y a des avancées aussi dans les traitements du langage, par exemple la traduction de langage des signes en texte, la traduction de texte en langage des signes. C'est des choses qui apportent des éléments très intéressants pour les personnes qui sont concernées. Il y a la sauvegarde de langues anciennes, le déchiffrage d'anciens parchemins dont on n'arrivait pas à comprendre ce qui signifiait, etc. Il y a plein d'usages qui sont très très positifs, qu'il ne faut pas justement noyer dans un certain nombre d'usages qui ne sont pas forcément utiles. Et il y a une question à se poser à chaque fois qu'on se sert d'un logiciel d'IA générative. Il y a la phase d'apprentissage, on apprend à s'en servir. Là, on s'amuse, on fait des trucs. Mais après, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, il faut avoir en tête qu'il y a des choses qu'on peut demander à l'intelligence artificielle qui ne sont pas forcément utiles, ça représente un coût. Puis ne pas oublier, que l'humain, ça marche aussi très bien. C'est-à-dire, il y a des séances de brainstorming où on se sent obligé aujourd'hui d'avoir ChatGPT comme partenaire supplémentaire. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. Au contraire, il est très performant pour brainstormer. Mais les êtres humains, ça marche très bien aussi. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Et se servir de l'IA que quand vraiment ça apporte quelque chose de plus.
Alors, justement, le livre s'achève presque sur le versant, vous essayez de démonter le mythe très angoissant qui existe aussi sur l'IA, parce que, comme toujours, quand une technologie arrive, on est coincé entre d'un côté les turiféraires qui disent c'est formidable, notre vie va changer, ça va être merveilleuse, les voitures vont voler, et puis de l'autre, on a des gens, on va dire, plus technophobes ou plus craintifs qui disent ça y est, la fin du monde est à nouveau à nos portes. Et donc là, c'est ces fameuses notions de singularité, d'IA générale qu'on lit dans les articles de presse, pas scandale, mais on va dire très grand public sur l'IA. Et ça, pour le coup, vous dites les choses assez clairement dans le livre, en disant, là, on est vraiment du côté du fantasme, c'est-à-dire dans l'état actuel de la façon dont les choses fonctionnent, cette idée de singularité, de pouvoir pris par les machines, de Terminator à la fin, ce n'est pas du tout l'horizon dans lequel on vit actuellement, eu égard aux techniques dont on dispose.
On avait Marvin Minsky, qui est un des pionniers de l'intelligence artificielle, qui en 1970 faisait une prédiction, à lui aussi, et il prédisait dans 6 à 8 ans, on aura un système d'intelligence artificielle qui aura les capacités de l'intelligence humaine moyenne. Et on est 50 ans après, on n'est absolument pas dans ce cas-là, et on ne sait même pas si ça sera possible. Donc vous voyez, il y a aussi beaucoup, beaucoup de fantasmes. Mais toujours se rappeler quand même qu'il ne se passera que ce que les humains ont bien voulu qu'il se passe. Parce que ce sont encore les humains. Il y a une blague à ce sujet que j'avais vue, ce sont des gens qui discutent, et une discussion autour de est-ce qu'il faut parler poliment avec les chatbots d'IA. Est-ce qu'il faut leur parler gentiment ? Et et c'est une question, est-ce qu'ils répondent mieux si on leur parle gentiment ? Donc c'est une question intéressante. Hein. Et il y a quelqu'un qui disait, ouais, moi, c'est un peu le pari de Pascal, hein. Moi, je ne sais pas, mais je préfère leur parler gentiment, parce que si un jour ils prennent le pouvoir, peut-être qu'ils se rappelleront que j'ai été correct.
Non, tout à fait. D'abord, l'idée que, de manière un petit peu magique, tout d'un coup, un système construit dans un laboratoire s'échapperait et prendrait le contrôle d'un pays, puis de l'humanité, c'est complètement du délire. Et c'est du délire tout simplement parce que, d'abord, ça reste les humains qui décident quelles machines ils veulent construire et puis quelles sont les lois, quelles sont les choses qui sont utilisées. Quels sont les usages qui vont être autorisés ou pas. Donc c'est vraiment nous qui déterminons. Et puis, c'est pas non plus parce que dans tel ou tel domaine, on est capable d'avoir des machines qui peut-être vont avoir des performances meilleures que celles des humains, que c'est aussi un danger pour l'humanité. D'ailleurs, chacun d'entre nous, on connaît tous plein d'autres personnes qui sont bien meilleures que nous et bien plus intelligentes sur plein de sujets. Est-ce que pour autant on se dit qu'elles sont dangereuses pour nous ? Ben non, parce qu'en fait on vit dans un système social qui est structuré de manière à ce que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est plus intelligent que les autres qui représente un danger pour le reste de l'humanité. Et d'une certaine manière, c'est pareil pour les machines. C'est pas parce qu'elles ont des capacités qui vont augmenter qu'à un moment donné, elles représentent un danger pour l'humanité. Le danger pour l'humanité, c'est plutôt certains humains qui voudraient à un moment donné les utiliser à des fins négative. Et donc, le responsable, c'est l'humain.
Pierre Voudayer, Didier Roy, merci beaucoup pour cette présentation, on va dire, raisonnable, raisonnée, extrêmement claire de l'intelligence artificielle. Merci à vous.
Merci.